France Inter.
C'est le bon du final. Soyez les bienvenus sur France Inter avec Lisa Delmoitier, avec Tom Baldetti.
Bonjour.
Emma, bonjour. Yves Delaf est là aussi. Daniel Morin.
Coucou Tom. Coucou
Tanguy Pasturo.
Bonjour.
Et notre invité aujourd'hui, c'est Jules.
Oh oui. Non. Oh là là.
France Inter, la bande originale.
On t'a pas entendu, Oldelaf, mais je sais que tu es avec
Bonjour.
Nous. Voilà, bonjour Jules, soyez le bienvenu, comment ça va?
Eh ben ça va très bien.
On est ravis de vous accueillir pour la renaissance de Picsou.
J'ai mis mes plus belles plumes.
Ah, c'est très bien. Ah,
ça vous va bien.
Picsou et les beats coin coin, cet album chez Glénat.
Elle va pas pouvoir tenir.
Non, j'adore.
Elle est morte de rire depuis 3 jours.
Que vous signez avec Keramidas. On va parler de cet album et de cette renaissance. Moi, j'ai tellement eu de plaisir à retrouver ce vieux Picsou.
C'est un personnage incroyablement mondial et patrimonial. Ouais. C'est-à-dire, j'avais oublié à quel point on aimait Picsou. Moi-même, j'avais oublié que je l'aimais
à ce point-là. Alors justement, petit tour de table. J'ai besoin de savoir quel est le personnage bande dessinée de votre enfance qui est comme une sorte de petit talisman, de votre coup de cœur d'enfance. Tom, ça serait qui ?
Titeuf.
C'est vrai ?
Ah. Avec Zay, sa petite sœur.
Tu le fais bien.
Merci.
Là, ça marque une génération parce que Titeuf, moi, j'ai pas grandi avec. Et ouais, Tanguy ?
Moi, c'était Tintin, grand-mère qui était institutrice m'a appris à lire avec Tintin en Amérique,
ce
qui fait que j'ai toujours détesté les Indiens de manière assez forte.
Oh.
Mais avez-vous lu Tintin en Amérique? Parce que c'est exactement ça en fait, c'est un monsieur qui arrive et qui dégomme quasiment tout ce qui se passe en Amérique. Enfin, voilà. Et non, je plaisante bien sûr, mais en tout cas j'ai appris à lire avec Tintin en Amérique et après j'ai suivi toutes les aventures de Tintin, mais j'étais vraiment
un petit
fan.
Pour Tintin au Congo,
quand même.
Tintin au Congo, oui, bien sûr, c'est mon album préféré. J'essaie de te rassurer.
Toi, Daniel?
Ah ben moi, j'adorais Tintin, Astérix, tout cela. Ouais.
T'en as un en particulier? Un personnage?
Ah, Astérix en Hispanie, peut-être.
Non, mais un personnage.
Astérix.
Ouais.
Astérix. Et peut-être le fils de Supalonio Niclouton.
Pépé. Ah ouais, t'es vraiment pointu.
Oui, c'est très pointu.
Personne ne voit.
C'est dommage, c'est
ce personnage qui retient sa respiration quand il est
pas content. Voilà.
Franchement, il y a des invités de qualité.
Ouais, voilà. Emma,
moi, c'est Tom, Tom et Nana.
Oh, oui.
C'était il n'y a pas longtemps.
Hier.
J'en ai racheté un hier.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Elle sait lire.
Parce qu'il y a des images. Parce qu'il y a des images.
Non, parce qu'il y a le dessin animé aussi, mais il y a les albums.
La comédie musicale.
Ah ouais. C'est vrai?
Non. Mais ça pourrait.
C'est un projet. On y va tous.
Mais elle est positive, Lisa. C'est ça que j'aime bien.
Toujours. Un petit
rayon de soleil. Eh bien, moi, c'est Gaston Lagaffe.
Ah, ça te va bien.
Forcément.
Ça te correspond bien.
J'espère. J'attends,
c'est vrai. Au point de lire tous les albums et de collectionner un peu.
Ouais, vraiment. Je vois la première image, je sais par cœur toutes les répliques et tout. Ouais.
Ah. Et toi, Lisa?
Paradoxalement, pour une Belge, je suis pas plus BD que ça, mais c'était quand même Titeuf, moi aussi.
Ah ouais, Titeuf aussi.
Donc finalement, ouais.
D'accord, ok.
Ça a marqué une génération.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression de découvrir ça tardivement, Titeuf. Moi, j'adorais justement Picsou, les Mickey, les choses comme ça. Les Schtroumpfs un peu.
Ouais, les Schtroumpfs aussi.
Mais j'avais pas l'impression. Oh, Tintin, ça me fatiguait un peu. C'était pas simple, mais je trouvais que voilà, l'humour des Picsou, c'est peut-être pour ça que j'ai eu autant de plaisir à retrouver cet album. Vous, Jules, c'était vraiment.
Il y a des gens qui sont de la famille aventure, c'est plutôt Tintin, puis la famille humour, c'est les autres franco-belges. Moi, je dirais que peut-être Gaston aussi, parce que c'était un peu un rôle modèle. Et puis c'est le personnage le plus punk de la BD franco-belge, c'est-à-dire vraiment
à contre-courant.
Écolo, anard,
anticapitaliste,
anti-policier, pacifiste. Enfin voilà, c'est le mec qui passe ses longueurs d'album à dynamiter les parcs-maîtres notamment.
Et ça, vos parents le voyaient d'un bon œil que vous lisiez ça?
Mes parents, c'était des hippies 68ards, syndicalistes. et donc, on était dans la ligne du parti.
Mais alors, ça tombe bien. Ouais. Et là, je suis sûre que Picsou et les beats coin-coin, ça va faire rire beaucoup de générations parce que derrière cette simple histoire des aventures de Picsou, qui revient d'ailleurs, parlons-en, qui a eu l'idée de faire revenir Picsou?
Ça fait en fait plusieurs décennies quasiment qu'il n'y a pas eu réellement d'album dédié à Picsou en librairie. Il y avait des Picsou dans les gares, qui étaient des retraductions de vieilles histoires, puis on rajoute des jeux un petit peu modernes pour avoir l'impression de
les Picsou Magazine.
Les Picsou
Magazine.
Dans le Picsou géant, Picsou Magazine, donc ça continue à exister en ce sens-là. Mais c'est vrai que des vraies histoires originales, il y en avait eu dans les années 70, début des années 80, en Italie. Il y avait plein d'auteurs italiens qui avaient repris Karl Barks et Don Rosa, les deux grands fondateurs historiques. Et donc, là, Disney a voulu un peu redonner du sang neuf à la série, la remettre au goût du jour en gardant le côté quand même traditionnel. Et très bizarrement, ils sont venus demander à des Français et ils m'ont proposé, avec les éditions Glénat qui s'est associée à Disney, de réimpulser quelque chose et de dire Picsou, c'est le Picsou qu'on aime traditionnel, mais avec des éléments d'aujourd'hui qui fait que, parce que les gamins qui voient arriver un mec avec un chapeau haute forme, des guêtres et
ça
tout,
canne,
c'est pas très familier à leur univers. Et finalement, le fait qu'il y ait les castors juniors, des téléphones portables, des réseaux sociaux, et que Picsou se heurte à ça, et en fait essaye de comprendre un peu comme nous, qui sommes déjà un peu, qui avons déjà un coup dans l'aile, et qui devons nous adapter à tout ça, voilà, ça permet de faire retrouver Picsou aux gens qui l'adoraient, et les autres générations, nous,
réussi,
d'une certaine
c'est
façon.
C'est réussi, et c'est très drôle.
Petits,
et c'est très drôle, et ça va fonctionner pour les petits et pour les plus grands. C'est un album qu'on peut lire en famille. C'est une très très bonne idée, ça, Jules, vous signez avec Midas dans cette émission. Il y a Oldelaf, vous le savez, vous l'avez vu, il est là-bas tapis dans l'ombre. Oh. Eh bien...
Alors, si tu pouvais t'asseoir normalement... Ouais.
J'étais là, j'étais tapis dans l'ombre.
C'était toi. Et il est particulièrement fan de vous,
évidemment.
Jules. Mais oui.
Je suis fan de Jules. Mais désolé, j'ai pas le droit aux rimes en hule. C'est pour ça que je préfère vous appeler Jules. Du coup, j'ai dit ça à mes mômes, ils sont devenus ma boule. Et vous êtes là pour Picsou et les bites coin-coin. C'est une BD sur un sujet un peu coquin. Je crois que Picsou participe à une partouze de canarguet. Franchement, bravo, je trouve ça rafraîchit le sujet. Picsou. Pardon, apparemment on me dit dans l'oreillette que j'ai pas compris le sujet, que j'ai fait une boulette. Je suis désolé, dans Live Picsou découpe les bitcoins. Pour me faire pardonner, j'ai écrit une chansonne.
Oh, wow.
Quelle aventure.
Faut aller jusqu'au piano.
Hey Jules, ne le prends pas mal. Dès que ça me chante, je deviens bêta. Je ris même pas, tous les torts ils sont pour moi. Mais t'es ma star, je deviens bêta. Hey June, ton beat mes frères. Je veux qu'on mette tout sur le dos, ça fait peur. Et limite, je voulais te chanter une comptine. Pas de la biguine, des groupes le à Donald, j'ai plus de peine. Et Jules m'entraîne dans le galinacé de toutes les couleurs. C'est bien trop beau, c'est pas des poules, des canards cool. Je retourne en enfance un peu dans mon cœur. La 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 la.
Beaucoup trop haut.
Autant qu'ils sont, admets qu'ils te bottent. Je ris même pas, ou je fais pas une blague mesquine. Mais tu dessines trop bien tes meilleurs, 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 meilleurs. Coin, 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 et du, et du, et du, et du, et du, et du, mais pardon pour les notes bizarres. Aujourd'hui au moins j'ai une excuse pour faire des canards. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Incroyable.
Le chorus coin-coin, il faut le déposer. Quoi.
Quel hommage.
Paul McCartney est sans doute décédé durant cet interstice.
Au-delà sur scène, bien sûr.
Sur scène, oui.
Allez,
il va
Daniel.
Chanter peut-être le coin-coin pour Opération Bretzel. Alors, je sais qu'il sera à Paris, au Folies Bergères, le 1er avril, mais à Nantes, ce sera...
Ce sera ce soir demain soir. Ça va être dingo. Ça va être fou.
Complètement dingo. Non, c'est... Voilà, on est à Donaldville, nous, pour le coup. J'allais faire une blague que vous faites dans l'album avec Pluto. Et je me suis dit, dingo, il l'a fait quand même. Et il l'a fait, elle est géniale.
Cette blague blague sur Pluto, en fait, c'est un direct clin d'œil, c'est une blague que j'ai reprise au nul.
Oui, bah
parce
oui.
que Chantal Lobby, à chaque fois, dans le journal des nuls, elle disait, mais regardez Pluto. Et puis il y avait une image de Pluto, puis on passait à un sujet what the fuck après.
On est à Donaldville, et là, le drame, c'est que Picsou, le légendaire Picsou, l'homme le plus riche de la planète, a été détrôné. Et ça commence comme ça.
Ben oui, parce que en fait, les canards de la tech ont fait fortune et ont dépassé Picsou dans sa fortune proverbiale. Et il est complètement déprimé, évidemment. Il est sous terre et il n'aura de cesse que de récupérer son rang numéro un de plus grande fortune. Et c'est pas évident parce que lui, c'est une fortune à l'ancienne. Il nage dans sa piscine de pièces d'or qu'on connaît bien. Mais aujourd'hui, être riche, c'est pas ça. Ouais. Et c'est le point de départ un peu de cet album, de se dire qu'est-ce que c'est qu'être super giga méga riche aujourd'hui.
Il comprend pas la fortune virtuelle. En fait.
Non, oui. Les gens, ils ont plus des pièces sonnantes et trébuchantes. Ils ont des bitcoin-coin, des micarium, et toutes sortes de ces monnaies très théoriques.
Oui, parce que d'habitude, Picsou se baigne dans son argent.
C'est ça,
son coffre.
C'est l'image.
C'est charnel. Il voilà, a un rapport charnel à son argent.
On a fait ça. D'ailleurs, par rapport au bouquin, il y a deux éditions. Il y a une édition classique et une édition un peu collector, oui. Et dans l'édition collector en fait, que les fans de BD aiment bien acheter, il y a une double couverture, c'est-à-dire celle où il plonge dans sa piscine de pièces d'or et puis on peut retirer un bandeau, et en fait sa piscine est vide, et c'est avant ou après les bitcoin-coin, et c'est évidemment plonger dans une piscine vide, ça fait des dégâts, même pour un canard.
Et là, on a son opposant majeur, on découvre ce personnage-là, qui lui a fait fortune dans les bitcoin-coin.
Alors il s'appelle Carsten Duck, mais on aurait pu sincèrement l'appeler Elon Duck, parce qu'il ressemble beaucoup au canard transhumaniste avec des gros magrets bien pectorés comme ça.
Qui fait travailler régulièrement.
Voilà, et il ressemble aux ultra-riches aujourd'hui, aux oligarques, aux Jack Ma, Jeff Bezos, Musk, qui dirigent un peu la planète et qui ont des projets politiques, qui sont un peu des psychopathes. Et on se rend compte que malgré ces névroses quand même sérieuses, hein, Picsou, cette espèce de volonté d'accumulation radine, cupide, il est finalement assez humain et assez touchant. Alors que les autres, c'est vraiment des dingues.
Comment les Américains
envie de les avoir aux commandes.
Pardon, je vous ai interrompu. Comment les Américains ont perçu, Disney a perçu la critique de ces ultra-riches Américains, où on peut deviner, en effet, un Elon Musk. Est-ce qu'il y a eu lecture et relecture?
Alors, pour Disney, il y a un suivi très, 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 très précis de toutes leurs licences. Et donc, moi, j'avais un petit peu peur au départ en me disant, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Mmh. Et il ne m'avait pas donné de feuille de route, donc j'avais quand même le droit d'inventer l'histoire avec Keramidas, le dessinateur qui, lui, a bossé 10 ans avec les studios Disney. Donc, il a ça dans les mains très naturellement. Il me disait, tu vas voir, ce n'est pas si évident. Et en fait, j'ai été assez libre. Alors, bien sûr, on ne peut pas mettre de personnages politiques réels. Je n'allais pas faire du Charlie Hebdo dans Picsou. C'est aussi pour les enfants, pour les adultes, c'est pour tout le monde. Et il ne faut pas trop.
Oui, enfin, même si c'est pour les enfants, que les enfants ne comprennent pas la référence, mais que les adultes la comprennent.
On aurait pu, mais ça c'est pas vraiment dans la charte Disney. Ouais. Mais malgré tout, en contrepoint, on devine qu'il y a tous ces personnages qui nous parlent d'aujourd'hui. Et donc voilà, il y a une espèce de lecture en creux de l'album.
Ils vous ont laissé tranquille. Est-ce qu'il y avait des présupposés, des attendus pour un Picsou?
Je pouvais faire ce que je voulais. On m'a dit, voilà les clés de l'univers canard. Ouais. Et donc, j'avais droit à tous les personnages secondaires. Et pourquoi est-ce que, finalement, je suis ultra heureux de reprendre officiellement Picsou plutôt que Mickey? C'est parce que Picsou, il y a un univers autour de personnages secondaires qui sont presque aussi bien que Picsou lui-même. Alors, évidemment, Donald, Daisy, les Raptou, qui sont les méchants. Alors, là, dans l'album, ils se transforment en hackers, en fait, parce que ils sont en prison toute la journée et ils ont appris avec des jeux vidéo à coder, en fait. Et donc, ils réussissent à siphonner les comptes de Picsou. Et puis, les Castors Juniors.
Ils sont géniaux, les Castors Juniors. C'est des influenceurs. Ils maîtrisent tout le contenu digital.
Voilà. Et alors, eux, ils sont
influenceurs.
Voilà, ils savent exactement ce qui se passe dans leur génération. Mais le truc, c'est que j'avais fait dans mon scénario au départ, j'avais écrit qu'ils étaient influenceurs, qu'ils avaient des chaînes YouTube, qu'ils avaient des surnoms sur leurs chaînes. Riri, Fifi, Loulou, c'était Riril, ils parlaient des vidéos. Fifi, des nouvelles technologies. Et Loulouk, qui était influenceur beauté, en fait. Avec les crèmes de jour pour canards, tout
pour
ça.
Pour plus le casser.
Et ils m'ont dit, Disney m'a écrit en disant, écoutez, à chaque fois on se parle en anglais, je reçois des mails et chaque étape du scénario est validée. Ils me disent, c'est pas possible. Ils sont mineurs, ils peuvent pas être influenceurs sur les réseaux sociaux. Je dis, merde. Mais à l'américaine, très professionnellement, ils proposent des alternatives. Ils disent, mais ils peuvent être influenceurs sur l'intranet de leur école. Et je dis, ok, j'ai validé ça tout de suite. Et plein de fois comme ça, il y a eu des moments où on disait, non, non, ça c'est pas possible, c'est pas Disney,
c'est
mais vous pouvez faire ça.
C'est hyper hypocrite quand on voit comment ils exposent parfois des enfants sur des comptes américains pour justement générer de l'argent.
On sait que dans la réalité c'est ça, mais...
Mais tout est balisé par contrat, j'ai l'impression. Ouais.
Voilà, voilà. Et puis l'image. Moi évidemment, je mettais plein de petits trucs grinçants, sachant que ça allait pas être retenu. Et je me souviens un jour, j'ai reçu un mail encore 28 de la part de Disney, comme ça, avec juste une seule phrase avec marqué « No sex jokes ». Parce que j'en avais glissé quelques-unes et je savais que ça passerait pas la barre. Mais c'était juste pour voir jusqu'où on pouvait pousser un petit peu.
Ouais.
Et malgré tout, il a surnagé quand même des petites blagues. Et moi, je leur suis hyper reconnaissant de s'être dit « On confie les rênes de notre série pour toute l'Europe, pour le Moyen-Orient. » Aujourd'hui, il y a le Brésil aussi qui a signé cet album « Picsou et les Bitcoin-Coin ». Donc, il y a vraiment des traductions partout à des Français. Et c'est pas anodin parce que c'est la première fois, en fait, hein, qu'une telle licence Disney est pilotée depuis la France. Et c'est d'autant touchant qu'on voit quand même les difficultés de tous les créateurs aux États-Unis aujourd'hui, un peu dans tous les domaines, et évidemment de l'humour. Et de se dire, un peu comme l'Arche de Noé, les États-Unis, ils sont un petit peu sous l'eau là en ce moment et on va mettre nos bijoux de famille à l'abri en Europe. Voilà. Et c'est un peu une inversion des choses.
Alors
il fut des moments dans l'histoire.
Au Louvre, on n'est pas sûr.
C'est pas, peut-être pas le meilleur. Ah oui,
c'est pas exactement le bon moment. Mais l'album va sortir. L'album va sortir aux États-Unis.
Alors, ce sera probablement le dernier endroit où il sortira. Les États-Unis détestent. Ils font des remakes. Ils prennent des choses qui existent un peu dans le monde entier, mais à leur sauce. Donc, en fin de compte, là, c'est plutôt le contraire. C'est nous qui utilisons un mythe américain à notre façon. Écoutez, on ne sait jamais, parce que l'histoire est pleine de surprises en ce moment.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec ce Donald Duck qui fait des duck face sur les conseils de ses trois petits-neveux, qui appelle ses followers les fololos.
Oui, c'est un peu la honte, c'est un peu ringard. Ouais.
C'est un peu ringard, après il y a plein de gens qui le font encore sur les réseaux sociaux, ils seront ravis de lire ça. Et on retrouve en effet tous les personnages qui ont fait le bonheur de notre enfance. Cet album signé Keramidas et Jules Picsou et les Bitcoin-Coin chez Glénat, c'est notre recommandation du jour. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Lisa Delmoitier. Lisa Delmoitier n'aurait pas fait cet album comme ça, Jules.
Non. Déjà, je viens de me dire que si moi je recevais un mail avec no sex jokes, l'entièreté de ma carrière s'effondrerait. Non, moi je passe mes journées à écrire, je me prends la tête à essayer de trouver des blagues. Là, ça fait des jours que j'ai pas dormi. Je suis jalouse de votre blague, Jules. Les canards à la salle de sport, ils travaillent pas leur pec et leurs ischios, ils travaillent leur magret.
Ouais.
Et moi, un truc comme ça, ça me fait rire une semaine entière. Sachez-le. C'est con, mais enfin. Je vous connais pas, je viens de dire que c'était un truc con. Pardon, je dis ça avec le plus grand des respects. J'adore les trucs cons. Regardez mes collègues. Ouais. Vraiment, vous êtes ici chez vous, Jules. Non, mais votre numéro de Picsou, il est trop marrant, quoi. Il m'a rafraîchi la mémoire aussi. C'est bête, mais j'oublie tout le temps qu'il s'appelle Balthazar.
C'est vrai.
C'est comme quand je me rappelle que Johnny, c'est Jean-Philippe Smet. C'est vrai, il est comme moi, c'est un beauf de Belgique, quoi. J'oublie. Pourtant, le loup et la pleine lune sur le t-shirt, c'était quand même un gros indice. Déjà, merci Jules de percer un mystère aussi, parce que je me suis toujours demandé sur les photos, quand ils posent, est-ce que les canards font un human face? Ah ben non, ils font un dog face, comme nous, en 2018. Aujourd'hui, si vous êtes Donald Trump. Un autre nom de canard, d'ailleurs, Donald. Coïncidence? Probablement. J'essaie d'arrêter.
Oui.
Faut vraiment que j'arrête de voir des signes partout. Je suis plutôt canard que signe.
Ah, oui.
Et là, vous avez moitié humoriste professionnel. Je vous laisserai ma carte à la fin de l'émission. Je fais les mariages, les enterrements et un bon tiramisu.
Ouais.
En même temps, ce serait quoi un human face? Ouais. Les canards, c'est simple. Ils ont tous la même bouche pulpeuse. On dirait les Kardashians, mais avec des pieds palmés. Donc les Kardashians à la plongée, quoi. D'ailleurs, c'est ça qui est chouette à la plongée. Hein, c'est le seul moment où t'as naturellement une duck face. J'allais la faire et c'est filmé, je vais pas faire ça. C'est le seul moment où t'as naturellement une duck face pulpeuse avec le masque, là.
Ouais.
C'est pour ça que moi, j'organise tous mes premiers dates à la plongée. Voilà. Bon, pour ça et aussi parce que ça limite les conversations. Hein. On parle juste avec les gestes symboliques des plongeurs, il y a moins de pression, si ce n'est celle de l'eau. Le problème, c'est que quand je fais le signe tout est ok avec le cercle et le doigt, le gars, il croit que ça veut dire que... Alors, ce qui en soit dans le contexte indé veut dire que tout est ok. Mais pour revenir à Picsou, dans notre nouvelle BD, Jules, on découvre un autre canard.
Oh, wow.
Canard. On découvre un autre canard, on l'a dit. Canard, bizarre. Karsten Duck, qui rappelle donc Elon Musk, puisqu'il fait fortune dans les nouvelles technologies et les crypto-monnaies. crypto-monnaies qui sont, je le rappelle, comme de la monnaie normale, sauf que j'y comprends rien. Ouais. C'est une petite nuance, mais elle a son importance quand t'es en date avec un mec citadin d'une trentaine d'années qui fait de l'escalade. Lisa, t'as pas de crypto-monnaie? Non, j'ai pas de crypto-monnaie, non. Non, je t'avoue que j'essaie déjà de gérer tout ce qui est monnaie. On verra après pour la crypto. Mais Lisa, la crypto-monnaie, c'est pas compliqué. Attends, je dois recommander une IPA, puis je vais tout expliquer. T'as pas plutôt envie qu'on aille faire de la plongée? En même temps, merci Jules, vous nous rassurez en confirmant dans un BD que les crypto-monnaies, personne n'y comprend rien. Hein, c'est comme jouer au loto, regarder un Quentin Dupieux. Écoute, on verra bien quand on y sera.
Ouais,
t'as raison. Merci. C'est un autre sujet, mais parlons-en. Mais chez Canard, bien sûr, les crypto-monnaies ne s'appellent pas des bitcoins. On l'a dit, mais des bits coin-coin. J'ai tellement de blagues et de jeux de mots qui me viennent en tête, je crois que je vais faire un AVC. Donc, vaut mieux que je m'arrête ici. Puis, de toute façon, il faut que j'aille à la salle de sport bosser sur mes magrets. Oh, je vais jamais m'en remettre, en fait. Oh.
Merci, Lisa Delmoitier.
Le spectacle de Lisa Delmoitier, Romantada, sur France Télévisions, le site.
Absolument, le site.
Alors ça, là, pas confondre avec... la salle.
Là, c'est Picsou qui parlait, tu vois, des bitcoins.
Mon rôle modèle. Sur la toile.
www.
C'est ça. Le monde a changé et Picsou...
Pourquoi ?
Le monde a changé et là, c'est Picsou, ce grand capitaliste radin qu'on connaît depuis notre enfance, est un peu paumé. En effet, il découvre que la richesse, eh bien, elle s'accumule différemment, qu'il faut être sur les réseaux, qu'il faut être présent et qu'il faut même communiquer. Ça aussi, c'est un enseignement. C'est-à-dire, être riche, c'est bien, mais c'est pas suffisant, il faut le faire savoir.
C'est ça, et puis, alors comme Daisy explique bien à Picsou, aujourd'hui, le capital le plus important, c'est le capital sympathie. Oui, et donc, effectivement, c'est les followers, c'est l'image qu'on a, c'est la façon dont on est perçu à l'extérieur, tout est dans les apparences. Et donc, il est obligé de se convertir à ça, et il fait sa money routine tous les matins, il explique comment il prend. Alors, j'avais fait une blague comme ça, où il allait dans sa golden salle de bain pour prendre une golden shower avec des pièces d'or qui tombaient. On me l'a pas laissé.
C'est vrai, on vous l'a même pas laissé.
Non. Mais si, je crois que c'est à l'occasion de ce gag que j'ai reçu le mail précédent.
C'est Daniel qui prend les golden shower.
Et du coup,
on pourra expliquer ce que c'est.
Non, c'est bien. C'est les vacances en plus, c'est bien. Voilà, on laisse les parents s'expliquer.
Les gens ont internet, ils ont des sites, Daniel.
Il y a un site Golden Shower.
Il suffit de taper.
Point fr, oui.
Donc oui, Jules.
Donc il y a ça. Et dans l'histoire, au milieu de l'album, le canard s'est fait plumer. Picsou n'a plus d'argent. Il s'est fait siphonner tous ses bits coin-coin et il doit remonter la pente. Et c'est justement une question d'image. Une question de représentation qui va le sauver. Il décide, sur les conseils de Géo Trouve-Tout, hein, le génial inventeur, de faire appel, comme ils ont plus un rond, à une cagnotte participative à Donaldville, cui-cui bank-bank. Il récupère quelques brousoufs pour monter un film qui va raconter le biopic de Picsou pour le rendre sympathique. Et puis comme ils disent tous, c'est difficile aujourd'hui de faire aimer un milliardaire,
ouais,
hein, on le sait. Voilà, hors taxe Duckman, ce qui aurait pu être... J'ai pas pensé sur le moment, mais j'aurais bien aimé inventer ce truc. Mais j'ai envoyé l'album à Gabriel Zucman pour avoir son diagnostic, mais il m'a pas répondu encore. J'attends sa réaction. Maintenant. Voilà, c'est une star.
Et ce biopic va aller au Festival de Cannes.
Voilà, au Festival
des Cannes.
Oui. Et en fait, c'était... Là, pour le coup, c'est un épisode qui est un peu psychologique analytique pour moi, parce que j'avais fait il y a un an et demi, désormais, un film long-métrage, issu de la série de bande dessinée et de dessin animé qu'il y avait sur, en format court, Silex and the City, qui était cette famille préhistorique que je mets en scène pour raconter aujourd'hui, et donc je suis allé présenter, c'était en sélection officielle au Festival de Cannes quand même, le long-métrage, et c'était un peu traumatique, parce que moi j'étais perdu, ces espèces de montée des marches, toute cette pression qu'il y a autour, et donc j'ai un peu expulser toute cette espèce de choses incroyables qui m'étaient arrivées à travers les aventures de Picsou au Festival des Cannes. Et lui, contrairement à nous, gagne la palme en or face à toute une espèce de bestiaire, en fait. Et c'est là où, finalement, il y a un côté un peu français, je dirais, dans ce Picsou. C'est il y a plein de jeux sur la langue, sur les personnages. Même si, en soi, rien que le nom Picsou, c'est déjà un genre de jeu de mots. Hein. Il change de nom selon les traductions. Et donc, il y a Yak Odiar, Antilope Cruz, Jean du Babouin, Brad Pitbull.
C'était vraiment une franchise pour Aldelaf, à la base. Il est vraiment passé à côté.
Il y a tout un bestiaire un peu version Zootopia.
Mais c'est Balthazar, Picsou, qui remporte le prix après avoir réussi à convaincre Thierry Frémaux que ce film...
Et je ne sais pas si vous avez vu, mais le personnage dessiné par Karamidas, c'est la version vraiment palmipède du vrai Thierry Frémaux, le patron du Festival de Cannes. Et il lui ressemble incroyablement. Je ne sais pas comment il a réussi à le rendre de manière aussi schématique en canard, mais c'est, il lui ressemble.
C'est le premier Picsou où on sent autant l'époque dans laquelle on est, non ? Parce que généralement, c'est un peu intemporel quand même, les histoires.
Oui et non. En fait, Picsou existe depuis 80 ans quasiment. Et en fait, il a aussi évolué avec son époque. Et il y a eu la conquête spatiale, il y a eu plein de découvertes, en fait, technologiques. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages qui étaient des personnages stéréotypés. Picsou, le personnage du radin, il existe depuis toujours. Dans l'Antiquité, c'est le roi Crésus. Dans l'époque classique, c'est Harpagon.
C'est Harpagon, ouais.
Mais Géotrouve-tout, typiquement, que j'adore, il est dans toutes les BD, en fait. Géotrouve-tout, c'est le professeur Tournesol dans Tintin.
C'est vrai.
C'est le comte de Champignac dans Spirou. Géotrouve-tout, on trouve. C'est le druide Panoramix dans Astérix. Et c'est ce personnage vénérable qui invente des trucs, qui fait rebondir l'intrigue, qui a une espèce de sagesse un peu envers. Il est récurrent.
Les Rabtou et les Dalton, comme on peut décliner peut-être.
Voilà, voilà. Et j'aime bien faire ces correspondances un petit peu cachées. Il y a toute une page, en fait, parce que les Dalton, Lucky Luke.
Souvent, c'est des frères d'ailleurs, hein, parce qu'il y a les frères Loiseau dans Tintin aussi. Les frères Apetou, les frères Dalton.
Il y a ces trucs, il faut se méfier des frères.
La bêtise vient de la fratrie.
ils sont au pénitencier, du coup, les Rabtou, et ils commencent, en fait, ils apparaissent dans notre album de Picsou, là, un peu comme les Dalton. C'est-à-dire, normalement, ils disent du calme Joe, parce qu'ils s'énervent. Et là, en fait, ils ont pas de nom, les Rabtou, ils ont des matricules à base de 7, de 6 et de 1. Donc, ils disent du calme 761-11, du calme 761-11, comme ça, voilà. Et c'est vraiment, un écho avec Lucky Luke aussi.
Vous avez bossé longtemps sur cet album, Jules ?
Ça a pris un petit peu de temps et à la fois très rapidement. C'est-à-dire que j'avais un peu peur au départ quand on m'a proposé de le faire. Je sais pas, j'ai hésité. J'étais pas si à l'aise. Enfin, je connaissais pas mon Picsou sur le bout des doigts autant que Lucky Luke, par exemple. Autant Lucky Luke, quand on me l'a proposé, j'ai dit oui. D'emblée, j'avais l'impression d'avoir vécu, d'avoir métabolisé Lucky Luke. Picsou, j'ai relu tous les classiques, tous les intégrales. Il y a des mètres cubes de Picsou, il y en a beaucoup. Mais je me suis retrouvé à signer lors d'un festival d'Angoulême à côté de Keramidas qui m'a dit bon, alors, on se le fait ce Picsou. Et on a commencé à déconner et il y a eu cette blague Bitcoin-coin. Et en fait, il suffisait d'avoir trouvé ce mot pour que l'histoire se déroule entièrement. Et après, voilà, c'était le tapis rouge. Parfois, c'est ça, il suffit d'une petite blague. Et là, je suis en train de bosser sur le prochain tome, parce que normalement, tous les deux ans, il va y avoir un Picsou. Là, c'est vraiment la renaissance de la franchise. Et donc,
N'attendez pas de savoir comment se vend celui-ci pour faire le deuxième ou pas.
Voilà, il faut commencer à travailler dès maintenant, parce que malgré tout, ça met un peu de temps. Et je sais que je vais avoir un an d'écriture et après un an de dessin derrière. Donc, pour être prêt dans deux ans.
Un an de mail, non, pas ça. aussi.
Voilà. Et puis du Lucky Luke.
Et puis Lucky Luke, voilà, c'est un peu comme, vous voyez, à Yalta, il y avait Staline et Roosevelt qui s'étaient un peu partagé le monde. Et là, c'est pareil, c'est une année Lucky Luke, une année Picsou.
Poutine,
année
Bénef,
père, année impair. Ouais, voilà, exactement. Voilà,
c'est une bonne contrainte quand même.
Voilà, c'est extraordinaire. Et puis c'est complémentaire aussi, parce que, et je m'en suis rendu compte a posteriori, il y a deux grands mythes fondateurs des États-Unis. Le mythe des pionniers du Far West, et ça c'est Lucky Luke, et le mythe du self-made man. Absolument. Et de l'immigrant qui tout d'un coup se construit, réussit à s'implanter.
Parce que Balthazar Picsou, il faut le rappeler, il est simple sireur de chaussures.
Voilà, et surtout il est écossais aussi. Ouais. Et en fait, le stéréotype de l'écossais radin, cupide, est vraiment mis en scène avec lui. En anglais, c'est Scrooge McDuck. Ouais. Et voilà, avec une référence au conte de Dickens, Tale of Two Cities avec Scrooge, qu'on connaît un peu, et puis tous les stéréotypes écossais. Et c'est. Chaque culture en a fait quelque chose. En Italie, c'est Zio Paperone, et bizarrement en Allemagne, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent Dagobert. Picsou s'appelle Dagobert, et il est ultra populaire. On va autant d'albums de ce Picsou en Allemagne qu'en France.
Ça fait partie aussi. Et Balthazar, je crois que ça a été inventé par un patron de presse, ce prénom.
Oui, au départ, il avait un autre nom aussi, Harpagon. Il s'appelait Harpagon. Dans les premières traductions de Disney, dans les années 60.
Et bien voilà les nouvelles aventures de Picsou et les bits coin-coin chez Glénat. Ça me fait rire à chaque fois, mais vraiment, ça marche à chaque fois. Jules Keramidas, est-ce qu'il y a une blague dont vous êtes particulièrement fier dans cet album ?
Je vous ai parlé de la blague de Pluto, parce que regardez Pluto. En fait, ce qui est présent, c'est qu'on est 97% Disney et 3% Goscinny, je dirais. Et ce qui veut dire que c'est tous ces blagues sur le langage, il y a sans arrêt des trucs où les marchés sont très volatiles, je vais me faire plumer, c'est un bec en or, c'est un bec louche. Et toutes ces blagues-là autour du monde des canards, je les aime bien. Mais un truc que j'aime bien, un truc de situation, qui nous arrive à tous, c'est qu'il est logé dans un palace 3 étoiles, Picsou, quand il va à Cannes, oui. Et en fait, il pique les petits chaussons les merdiques chaussons. Qu'il y a dans les hôtels, vous savez, mmh. ces chaussons qui se déchirent au bout de
ils
deux secondes.
Ils sont pas merdiques, non.
Qui servent à rien. En plastique à moitié, ouais. Et en fait, comme c'est gratuit, il veut les garder, ouais, il fait la montée des marches en oubliant d'enlever ses pantoufles d'hôtel.
Et il finit par dire, tout prêt, tout beau avec ce costume qu'on lui a prêté, parce qu'il a peur d'aller à Cannes pour ça, parce qu'il faut se loger, parce qu'il faut s'habiller, et tout le monde le rassure en disant tu seras pris en
tout
charge,
est gratuit.
Voilà, aux frais de la princesse, et il demande ça va, j'ai pas trop l'air d'une dinde, et ça aussi moi ça m'a beaucoup fait rire face à une Daisy complètement,
tu t'es éclaté.
Mais moi j'adorais, mais parce que c'est vraiment, vraiment une partie de l'enfance qu'on retrouve avec cet album, merci pour ça Jules.
Autant les autres bouquins ça vous a pas marqué dans l'année, mais là celui-là
voilà, c'est mon préféré voilà, en fait, voilà. Je n'aime pas lire des vrais livres, j'aime que les bandes dessinées, voilà. Exactement, c'est mon coup de cœur. Et mon autre coup de cœur dans la bande originale, c'est Tom Baldetti. Ah mais oui. Ah, t'aurais préféré quoi?
J'adorais cette transition. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Jules. J'espère que vous allez bien, c'est un honneur de vous rencontrer. Vous êtes dessinateur de BD notamment, vous avez sorti plein de projets. 50 nuances de grec, Silex and the City, Call of Duty, Pulp Fiction, L'homme de Cro-Macron, La planète des sages. Vous faites autant de jeux de mots qu'un chroniqueur France Inter. Me dites pas que vous savez faire de la guitare, j'en connais un qui va être jaloux. Moi, je suis fasciné par les gens qui savent dessiner. Moi, je sais pas faire. Même quand je m'applique, on dirait un schéma. Dans Prison Break, le héros, il s'est tatoué le plan de la prison sur le corps pour s'évader. Moi, ça fait des mois que j'essaye de dessiner le plan de Radio France. Pour l'instant, j'ai fait un rond et je me perds encore. Ce matin, j'ai failli pisser dans les studios de la matinée. Oh. Parce que j'ai confondu avec les toilettes. C'est JB qui me l'a écrite, celle-ci. Je savais que c'était pas bien. Merci.
En tout cas, je t'ai vraiment retrouvé perdu dans Radio France ce matin.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je venais de... Enfin bon...
Voilà.
C'est long. Dans mon emploi, j'ai personne qui dessine. J'ai plein d'amis très différents, mais aucun qui dessine. Là, en fait, je voulais faire une transition pour parler de mes amis, mais j'ai rien trouvé d'autre. Quoi. J'aurais pu trouver un jeu de mots, mais je ne voulais pas vous voler la vedette. Je parle de mes amis comme s'ils écoutaient France Inter à 11h du mat. Comme s'ils écoutaient France Inter, en fait. Oh. Ce que je préfère chez mes amis, c'est qu'ils n'ont rien à voir entre eux. Si je devais tous les mettre dans la même pièce, je serais effrayé de savoir que c'est moi le point commun à tous ces gens-là. Quoi. Je me roulerais par terre en hurlant, mais tout ça, c'est de ma faute. Il y en a un qui a un doctorat et l'autre qui pense qu'avoir un doctorat, c'est être un docteur pour les rongeurs. Quoi. Ça crée des conversations lunaires. Hein. Du coup, toi, tu sauves des hamsters, c'est ça? Avec mon meilleur pote, pas celui qui est en doctorat du coup, on est amis par exemple parce qu'on s'est rencontrés trop jeunes. À 7 ans, tu m'aimes bien, je t'aime bien, bon ben on passe la vie ensemble. On était dans la même école jusqu'à la terminale, notre prof nous a dit c'est l'école qui fait que vous êtes potes, hein. Dans 6 mois vous vous calculerez même plus. Aujourd'hui on est encore amis juste pour donner tort à la prof, alors qu'on peut même plus se blairer. Il y a un ami, je peux plus le quitter, c'est le seul pote qui m'a vu pleurer devant Toy Story 4. Je peux pas me fâcher avec lui, sinon il va dire à tout le monde que je suis émotif face à des jouets. Moi ce que je préfère chez mes amis c'est leurs défauts. Ce qui met en valeur leur qualité. Comment je peux savourer ta loyauté si t'es pas un peu casse-couille de temps en temps? J'ai un pote égocentrique. Quand on parle pas de lui, on parle de ce qui lui arrive. Bah, je savais pas quoi écrire pour cette chronique. Il m'a dit, bah, parle de moi. On parle du fait que tu chiales devant Toy Story. Bah, j'ai fait les deux. On dit qu'on est la moyenne des gens qui nous entourent. Bah, normalement, moi, j'ai une bonne note.
Hein. Ouais.
Pas sûr de valider un doctorat, mais entouré de gens qui nous tirent vers le haut, je devrais pas redoubler. Merci de m'avoir écouté.
Bravo, Tom! Picsou et les beats coin-coin, et sur France Inter, un peu de musique. J'ai choisi, justement pour coller à cette actualité, 50 Cent.
Quoi ?
Candy Shop. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop.
How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be a nympho, I'll be a nympho. In the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how sprung I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop.
I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Slow, climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before, cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on or lights off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne can. Paint. Bottle after bottle of song, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop.
Rencontre improbable entre Picsou et les Bitcoin-Coin et 50 Cent. Voilà, c'est la bande originale sur France Inter.
50 Cent, c'est un sous-fétiche à lui tout seul.
Absolument, absolument. On va parler tout à l'heure justement des Bitcoins, parce qu'on en parle comme ça depuis le début de cette émission sans trop savoir ce que c'est. Et moi aussi, je suis un peu comme Picsou, je comprends pas bien de quoi il s'agit. Donc il y a Daniel Ishbia qui va venir nous expliquer un peu. Il a écrit Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls. Ça tombe très 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 bien, c'est nous. On va s'intéresser à votre bande originale, Jules. On va se promener dans des années importantes de votre existence. On commence en 86.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
Présentez-nous ce morceau, la mélodie du bonheur.
Bah, en fait, My Favorite Thing, c'est cette chanson culte de cette comédie musicale, hein, avec la famille Von Trapp, élevée par Julie Andrews, qui est la nounou parfaite. Et c'est évidemment l'époque d'une grande gaieté, une insouciance particulière. Et c'est vrai qu'en 86, j'ai 12 ans.
Au milieu des nazis.
Voilà, au milieu des nazis, mais justement avec cette espèce de... qui explique que la gaieté est aussi une forme de résistance, parfois, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, vous dites ça, mais j'y pensais pas en choisissant cette chanson pour vous en parler, mais c'est vrai que ça a une résonance particulière aujourd'hui, où on est dans un monde de bruit de bottes, de totalitarisme un peu partout. Et l'humour est une forme de... je dirais, de protection et de dignité qu'on reste un peu...
L'humour, c'est un peu de légèreté là qu'elle apporte.
De légèreté et de joie, alors que finalement, on attend de nous qu'on soit accablé et qu'on courbe les chines face à ce qui nous arrive. À chaque fois que moi, j'ouvre un journal, je suis à moitié paralysé de d'horreur. Et peut-être que ça nous donne un peu d'énergie pour faire des choses.
On est en 86, vous remportez le prix du concours scolaire de bande dessinée à Angoulême avec deux pages.
Peut-être le plus beau jour de ma vie. Ma mère arrive à l'école avec une petite enveloppe que j'ai reçue. On recevait pas beaucoup de courriers par la poste à l'âge de 12 ans, à part les cartes postales de copains. Et donc, j'ouvre ce truc dans la cour d'école et je vois que j'ai gagné le troisième prix ex aequo pour deux pages de BD que j'ai envoyées. Et voilà, le ciel s'est ouvert. Il y a Paul Claudel qui raconte comme ça son accession à la foi et qui voit trembler les piliers de Notre-Dame. Moi, c'était mes piliers de Notre-Dame à moi, quoi, ce jour-là.
Vous êtes fils de prof, Jules. Prof de lettres du côté de votre mère, je crois, prof d'anglais du côté de votre père. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre scolarité, justement, d'être fils de prof ou pas ?
Pour très souvent, les parents profs considèrent que c'est complètement normal que leurs enfants soient super bons à l'école.
Oui.
Et en même temps, moi, j'ai eu cette chance de faire toute ma scolarité dans un système alternatif, un peu genre Montessori, mais public.
De Crolly.
Il n'y avait pas l'école de Crolly dans le bois de Vincennes, près de Paris. Et dans cette école, on nous expliquait qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre l'arithmétique et le dessin. Entre la photo et l'histoire. On choisissait ses matières, on n'avait pas de notes, on tutoyait les profs. Et ce côté un petit peu libertaire, rigolo, fait que on a perpétuellement questionné les normes, les obligations, toutes les injonctions sociales. Et autant d'entre nous dans cette école avons eu des parcours très disparates. Il y a des gens qui sont devenus médecins ou avocats, et puis beaucoup de gens qui sont devenus artistes ou vraiment avec des vies très alternatives en dehors des clous. Mais on a tous en commun de pas nous être fait imposer, je dirais, par la pression sociale, ce qu'on faisait. Et moi, ça m'a aidé, en fait, d'avoir ces parents profs, d'être à la fois bon scolairement sans le savoir, on n'avait pas de notes, mais de pouvoir, le moment venu, choisir un peu ce que je voulais. Et peut-être que j'aurais pas été dessinateur si j'avais eu des parents traders.
Et avant d'être dessinateur en 95, vous écoutiez...
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento...
C'est toujours la recherche de la gaieté. Hein.
C'est ça, c'est la joie, la joie, la joie, rien que la joie.
Non, mais c'est vrai que par ailleurs, et je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'humour, c'est quand c'est voilé d'une certaine nostalgie, d'un certain mode mineur, parce qu'il y a toujours une ombre dans l'humour. La plupart de mes grandes idoles en bande dessinée, René Goscinny, évidemment, Gottlieb, qui était hilarant, Franquin, c'est des gens qui ont une part d'ombre considérable, et très souvent, dans les cinéastes, dans les humoristes, ils ont un drame personnel, une histoire familiale tragique.
C'est quoi votre drame à vous ? C'est quoi votre part d'ombre à vous ?
Je ne saurais pas dire exactement. Enfin, il y a plein de choses qui sont venues par la suite. Il y a évidemment ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Moi, j'étais de longues années là, et ça a été un moment décisif finalement dans les choix que j'ai fait après, hein, depuis maintenant une dizaine d'années. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai pleuré de ma naissance à mes 6 mois sans discontinuer, quasiment sans jamais dormir. Je ne pouvais pas respirer en fait.
Ils vous ont gardé, vos parents, parce que...
Non, mais ils n'en pouvaient plus de moi. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de truc d'angoisse et tout. Et ma mère me donnait une espèce de truc, pas de la Ritaline, mais un produit qui est complètement interdit pour les bébés. Pour m'assommer en fait, parce que c'était le seul moyen.
Donc
voilà, et en fait je suis né avec une espèce d'angoisse absolue de tout, et finalement je reste encore très préoccupé, soucieux, inquiet de tout perpétuellement.
Mais là, vous avez une petite larme là.
Mais le domaine de l'humour a été une planche de secours, parce que mes premiers dessins, mes premiers fanzines que je faisais quand j'étais petit, c'était de l'humour noir, vraiment toujours sur les trucs les plus tragiques.
Alors 95, vous passez par Normal Sup, vous décrochez l'agrégation quelques années plus tard, vous devenez professeur d'histoire chinoise, et dans les années 2000, vous écoutiez...
J'adore.
Vladimir Kosma, le générique de La Chèvre, avec cette musique sautillante, joyeuse, bien sûr. Et là, on parlait des premiers dessins de presse, parallèlement à votre métier de prof.
Voilà, cette musique de La Chèvre, elle a ce génie de faire replonger dans ce cœur incandescent, le cœur du réacteur de l'enfance, en fait. C'est-à-dire le seul moment où tu avais le droit de veiller, de pas aller te coucher parce qu'il y avait justement un Pierre Richard qui passait à la télé. J'avais droit au Pierre Richard et au Louis de Funès. J'avais pas droit au Bénil, j'avais pas droit de regarder Dallas. Les films d'action m'étaient interdits le soir, il fallait aller se coucher. Mais quand il y avait Pierre Richard ou Louis de Funès, j'avais droit.
Autorisé.
Et donc là, d'entendre ça, cette musique, je crois que peut-être je la mettrai à mon enterrement en fait.
C'est
et puis on verra peut-être le cercueil partir à volo, un peu comme le ponton où Pierre Richard disparaît à la fin. Enfin, c'est une espèce de catastrophe en route, à la fois hyper tendre.
Vivement votre enterrement, ça a l'air super.
Ouais, ça a l'air sympa.
Les gens qui se baignent dans la Seine maintenant, ils verront le cercueil passer et tout, ça va être
super,
un peu
super. Super, super. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, Tanguy. Et premier dessin donc dans la Nouvelle République des Pyrénées. Ça, c'est la première fois que vous publiez, en fait, vos propres dessins.
Oui, et puis c'est vrai que j'ai été pendant une douzaine d'années, d'abord dessinateur de presse, avec à chaque fois un petit dessin sur une actu, une réaction. Ça m'a appris à la fois la rapidité, la concision, mais il y avait un côté frustrant parce que on choisissait pas ses propres sujets. Évidemment, c'était l'actualité qui nous guidait.
Passons à l'année 2005. L'indépassable Rachida, Minouche, pourquoi cette chanson ?
Y a ce côté-là aussi, presque un petit peu doux, amer, parce que c'est un peu triste, c'est quelqu'un qui est aussi malheureux en amour, mais qui a ce soleil en lui. Et moi j'ai ce truc, ma mère est de Tunisie en fait, et donc je pense que j'ai toute une théorie en fait sur ce que c'est que l'humour français. Il y a pas très longtemps, la semaine dernière, les rencontres, les rendez-vous de l'histoire à Blois, qui est un superbe festival, vraiment, avec des historiens, des géographes, des sociologues, plein de gens qui parlent, et je devais faire une conférence, un one-man show sur le rire français, une histoire drôle. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu aux différentes couches, aux strates qui composent ben, le socle de l'humour français. Et puis c'est très emblématique sur ce que c'est que la culture française, avec une espèce de d'humus gaulois, rablaisien, toutes les blagues en dessous de la ceinture, ouais, et ça va de Rabelais à Bigard.
C'est vrai. C'est un grand chemin.
Voilà, les blagues sur le langage, l'esprit, la belle pensée du XVIIIe siècle, et cette espèce de changement de paradigme radical de la décolonisation. Au moment où 1 million de personnes dans une France de 40 millions d'habitants débarquent au début des années 60 et apportent une autre façon de rire, un soleil, une espèce de et rendent Fernand Reynaud un petit peu obsolète, et tout d'un coup, bah, c'est effectivement tout ce monde arabe, juif, pieds noirs, chrétiens, qui ont une autre façon de rire et qui nous illuminent. La plupart des gens qui nous font marrer aujourd'hui, les nuls, Nakache Toledano, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, tous ces gens qui ont été très emblématiques, ils sont marqués par ça, de manière très très nette, et c'est intéressant.
Et 2005, c'est Il faut tuer José Bové, c'est votre premier album, là encore. Comment avait reçu José Bové cet album, d'ailleurs ?
L'éditeur avait un peu peur, déjà, en disant, on peut pas faire ça, on va avoir un procès. On avait une version alternative qui était Qui veut tuer José Bové, qui était un petit peu moins offensive. Oui. Mais j'étais allé voir à la Confédération Paysanne, qui était son syndicat de paysans vraiment de gauche, radicaux, à Montreuil. Et j'étais allé leur montrer les premières pages, et tous les gens autour de lui se foutaient de sa gueule, parce que évidemment, il prenait toute la lumière par rapport aux autres. Et lui avait quand même vachement une distance au rôle, et il s'était marré d'emblée. Donc je me suis dit, allons-y, c'est un personnage marrant. Il avait ses moustaches en croc. Alors il est oublié un peu par les jeunes générations. Oui. Moi, je me rends compte que mes filles, elles ne connaissent pas José Bové. Mais il est, je veux dire, c'est avant l'heure, on disait l'altermondialisme à l'époque, mais voilà, tous les gens un peu Extinction Rébellion, tous les gens comme ça qui sont très actifs, ont une filiation par rapport à lui.
Absolument, et on revient à Picsou et les bits coin-coin chez Glénat avec Keramidas, et on accueille notre invité, Daniel Ishbia, bonjour.
Bonjour.
On vous a fait venir faire preuve de grande pédagogie, parce qu'on est complètement nuls. Vous êtes auteur et journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, puis vous avez publié avec Jean-Marie Lefranc, Bitcoin et... Pardon ?
Non, c'est bon.
J'ai dit Jean-Marc ?
Oui.
C'est Jean-Marc ?
Oui.
C'est Jean-Marc, pardon. Jean-Marc Lefranc, Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls. Alors, ça tombe bien. C'est quoi un Bitcoin ?
Le Bitcoin est né après 2008. 2008, il y a eu la crise des subprimes, où une monnaie, c'est quelque chose en qui on a confiance. Si je vais au Portugal ou à Berlin, que j'achète une pizza avec des euros, on va me donner une pizza. Donc il y a une confiance qui a été donnée par les banques centrales. Et puis en 2008, on a vu que la confiance en les banques avait été un peu spoliée. Là-dessus, il y a eu cette personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto, l'inventeur présumé du Bitcoin, qui a créé un autre type de monnaie où la confiance n'est pas donnée par les banques, mais par nous-mêmes. Je veux dire, ça peut être toi, ça peut être Tanguy, etc. Daniel, on va chacun être garant les uns des autres. Pourquoi ? Parce que on a sur notre smartphone ou sur notre ordinateur ou sur la plateforme où on a nos bitcoins, chaque fois que quelqu'un achète, un Coca-Cola ce soir, toutes les transactions depuis la toute première transaction en bitcoin jamais apparue en 2009, on a chacun à une copie. Donc on est tous garants les uns pour les autres. La confiance, elle est donnée par la population et non plus par les banques.
D'accord.
Ça nous donne un modèle alternatif.
Vous en avez, vous, des bitcoins ?
Oui.
Et autour de la table, est-ce que quelqu'un en a ?
Non.
Jules, non plus ?
Alors, pour le lancement, on avait l'idée de créer notre propre crypto-monnaie. Et non, j'en ai pas. Ah. Et j'avais même pas de
pas compliqué.
Parce qu'en fait, on peut pas avoir un bitcoin comme ça du jour au lendemain. J'aurais pas pu me pointer comme ça autour de la table en disant je vous en donne. Il faut avoir un portefeuille crypto.
Alors, Daniel, comment ça marche ? Justement, il nous faut quoi ? Un portefeuille, il faut mettre du véritable argent, on va dire du véritable. Voilà. À l'ancienne, sur une plateforme pour acheter des bitcoins. Ça coûte combien un bitcoin ? Le cours doit varier, j'imagine, beaucoup.
Le cours aujourd'hui, il est de 93 000 euros. Il était de 125 000 euros en début de mois, donc vous allez me dire ça a beaucoup chuté. Oui, mais en 2022, c'était quoi ? C'était 45 000 euros. En 2017, c'était 18 000 euros.
Je ne comprends pas, ça veut dire quoi, le cours à 45 000 ? C'est un bitcoin ?
Ça veut dire qu'un bitcoin aujourd'hui vaut 93 000 euros, à peu près.
Oui.
Mais il faut savoir qu'en 2011, c'était $1 pour un bitcoin. Donc c'est une
progression. Vous avez fait des affaires, Daniel ?
Non, parce que moi, je suis pas du tout. Pardon ?
Zut, bah, vous auriez
bah oui,
pu.
Vous
quoi,
auriez pu. En achetant au début.
Personnellement, je suis plus testeur. Enfin bon, j'étais journaliste de jeux vidéo avant. Moi, c'est plus tester des systèmes. Ouais. Moi, j'ai dû perdre autant que ce que j'ai gagné. Parce que, en tant que journaliste, pour pouvoir en parler, je mets 100 euros par-ci, 100 euros par-là. J'ai perdu. Mais même, je veux dire, toutes les bêtises, j'ai pu les faire. Je me suis fait souffler un portefeuille un matin. Et ce qui est, pour en parler, c'est bien, il vaut mieux aller dans la piscine pour parler de la piscine.
C'est quoi se faire souffler un portefeuille?
Oui, c'est ça, pardon?
C'est quoi se faire souffler un portefeuille?
C'est-à-dire qu'un matin, j'ai tapé un mot, je me souviens, c'était sushi swap. J'ai pris le premier lien.
Pourquoi taper sushi swap le matin?
Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, ça? Attendez, j'ai pas compris. Soit je suis débile.
Je me suis fait avoir.
Est-ce que vous voulez acheter des sushis?
Non. C'est-à-dire que le premier lien.
C'est quoi?
Quelqu'un avait reproduit le site de sushi swap. Et donc, j'ai tapé mon code et
C'est quoi le site de SushiSwap?
SushiSwap, c'était un système d'échange de crypto-monnaies. Et pardon, excusez-moi. Et je me suis fait souffler mon portefeuille avant d'avoir compris ce qui se passait. Ah, mais c'est rigolo, en même temps, c'est drôle.
Oui.
Moi, je suis allé sur tatakiton.fr, il n'y avait rien arrivé.
Comment est-ce qu'on trouve? Alors, comment est-ce qu'on trouve? Ça a l'air quand même un peu bête comme question, mais comment est-ce qu'on se procure donc un bitcoin?
C'est l'enfance de l'art. Il y a certaines plateformes comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. On y va, on donne des euros et on va acheter en échange du bitcoin ou d'autres monnaies comme le Solana.
Ah oui, il y a d'autres monnaies virtuelles.
Oui,
en
il y en a énormément.
En a beaucoup, hein.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on parle du bitcoin? Parce que c'est la plus ancienne, la plus connue, mais les autres, elles ont émergé. Pour quelles raisons? Parce que si on est censé tous se faire confiance, pourquoi créer une autre monnaie?
La grande révolution a eu lieu en 2014 lorsqu'il a apparu une monnaie qui s'appelle Ethereum, qui a été le modèle de plein d'autres monnaies qui sont des monnaies programmables. Ah. En quoi c'est intéressant? C'est que on voit apparaître des systèmes qu'on pouvait pas avoir avant. Je vais donner des exemples très très concrets pour les auditeurs. Mais vous avez 100 euros.
Oui.
Vous voulez investir dans la pierre, vous n'allez pas pouvoir acheter un appartement avec 100 euros. Mais grâce aux crypto-monnaies, je peux acheter peut-être un 10 000e d'appartement à Miami et je toucherai un 10 000e de loyer, par exemple. Ce sont des systèmes complètement nouveaux. Même autre cas de figure. Je veux assurer un seul vol d'avion. J'ai un Paris-New York. Si je rate le rendez-vous à 2 heures, le contrat est rompu. Je vais peut-être perdre, je sais pas. Si moi, je suis un businessman, je vais peut-être perdre des sommes énormes. Je veux assurer que ce voyage. La crypto-monnaie le permet. On n'a pas besoin d'avoir une assurance à l'année. Je peux assurer un seul voyage d'avion. Donc là, le fait d'avoir des monnaies programmables ouvre tout un nouvel écosystème. Et puis, il y a d'autres avantages dont on pourra parler un peu plus loin, comme l'anonymat. L'anonymat, c'est aussi l'argent liquide. Avant que vous achetiez une baguette, personne ne vous demandait d'où venait votre argent. Le Bitcoin, l'Ethereum et les autres vous permettent, dans certaines configurations, d'avoir de l'anonymat.
Et pourquoi on aurait besoin d'être anonyme avec de l'argent au-delà de la baguette?
Je sais pas, j'ai parfois soutenu certaines causes et ça regarde que moi.
Mais oui, mais si je
Al-Qaïda.
Le fais...
Non, peut-être pas. Non, c'était l'Ukraine,
Et pourquoi on aurait besoin de cacher son soutien? C'est-à-dire que si je fais un virement avec mon compte bancaire traditionnel, ma banque donc va le voir, vraisemblablement, c'est ça qu'on essaie de masquer?
C'est l'affaire Tapi, il s'est fait coincer parce qu'il est à une autoroute, il a dit j'étais pas à tel endroit, et puis on a vu qu'il y avait son ticket d'autoroute. Depuis les années 90, on sait qu'avec notre argent, on est fliqué.
Mais sauf que ça veut dire
que
l'anonymat peut aussi nous permettre, via le bitcoin, d'aller justement investir dans des choses qui sont pas légales.
Sûr. Ah oui, non mais il y a jamais de système parfait. Il y a toujours le plus et le minus. Mais
alors,
bon,
Daniel,
mais ça peut être bien d'avoir cette liberté.
Comment on fait fortune? Parce que nous, c'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, on veut être Picsou.
Rapidement.
Hein, voilà.
Il y a deux façons de faire fortune.
Ah bah voilà.
Après, la meilleure. Choisissez la meilleure.
Prenez des notes, c'est le moment.
Non mais la première, c'est Jordan Belfort, c'est un peu le mythe. Prends l'oseille et tire-toi. C'est-à-dire que vous allez prendre une crypto-monnaie. Et
pourquoi vous avez que des références que je connais pas, en fait?
Jordan Belfort, le loup de Wall Street.
Ah bah voilà.
Pardon.
Voilà,
ouais. Excuse-moi. Alors oui, on va prendre une crypto-monnaie. Je vais prendre mon surnom quand j'étais journaliste de jeux de vidéo qui s'appelait Danik. Disons que je crée une crypto-monnaie qui s'appelle Danik.
C'est bien caché.
Elle vaut. Pardon.
Bien caché, bien.
Oui, oui. Et elle vaut 1 cent aujourd'hui.
Oui.
Je fais un buzz sur Twitter, sur TikTok, etc. Acheter du Danik, etc. J'attends qu'il monte jusqu'à 100 euros, 1 000 euros. Oui. Et puis à un certain moment, je vends tout.
Oui.
Et ouais. puis
la plus-value.
Les pauvres gens qui ont investi dessus perdent leur argent. Bon, il y a des gens qui peuvent aimer ça. On peut trouver que c'est, je sais pas, c'est un mode de vie.
Donc moralité, qui on fait fortune en appauvrissant les autres.
Exact. C'est le modèle loup de Wall Street. L'autre modèle, c'est de passer sa journée sur devant des écrans. Je sais pas, 20 heures par jour à guetter les indices, se dire tiens, telle monnaie, et acheter au bon moment. Bon, c'est un mode de vie que certains peuvent aimer, tant mieux pour eux.
Merci beaucoup, Daniel Ishbia. Je rappelle, Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls avec Jean-Marc Lefranc. Tanguy Pastureau est avec
Jean-Martial. Jean-Martial, pardon.
Non, mais c'est pas vrai. Et vous changez de prénom à chaque fois. On va l'appeler Monsieur Lefranc.
Alors,
Lefranc. Voilà.
C'est
et il y a Tanguy
crypto,
qui est avec nous.
Il faut guetter les écrans.
Ça bouge. JM. Tanguy, à toi.
Tanguy, ça bouge. Je veux parler du casse du Louvre qui fait le régal des déclinistes. Ces gens qui pensent que nous sommes nuls. Alors oui, nous sommes nuls, mais pas plus qu'avant.
Restez avec nous sur Inter. Soyez les bienvenus avec Tom Baldutti, Lisa Delmoissier, Emma Beaujean, Aldelage, Daniel Morin,
coucou Lisa,
Tanguy Pastureau. Et notre invité du jour, c'est Jules.
Oui.
Bravo.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadou.
Jules, vous signez avec Keramidas, Picsou et les Bits Coin-Coin aux éditions Glénat avec un petit sticker France Inter. On aime, on vous en parle. Donc vous êtes même labellisé par la maison. C'est sorti début du mois. Donc là, ça fait déjà quelques jours. Vous avez déjà eu des retours de lecteurs, de rencontres un petit peu?
Ça marchait très bien auprès des libraires avant même la mise en vente. En fait, ils en ont commandé énormément, plus qu'on espérait. D'accord. Il y avait comme une espèce d'attente, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de livre autour de Picsou en librairie. Et en fait, le rendez-vous fonctionne vraiment. Et c'est drôle de voir que les gamins se sont jetés dessus, mais aussi finalement tous les gens qui sont passionnés par les cryptos, par exemple les sites spécialistes de crypto-monnaies ont fait des forums de discussion autour de Picsou et de ces tableaux. Enfin, on parle de nous. Il y avait un côté un peu reconnaissance dans la culture pop de la crypto et voilà, donc ça, on n'est pas à l'abri de devenir extrêmement riche.
Et ouais, bravo, vous avez trouvé le bon filon en fait.
Exactement,
on creuse. Intéressant à ce, un sou est un sou, comme le disait Picsou.
Tant que les jeunes, qui vont parler qui vont lire le Picsou, ils apprennent ça à l'école aujourd'hui, les cryptos, etc. Vraiment, on commence à étudier ce genre de choses.
Ils sont beaucoup plus au courant que nous. Moi, je sais que je me suis fait très expliquer des trucs par des gamins de 15 ans et qui savent très bien. Et de toute façon, ce rapport à l'argent un petit peu névrotique, c'est un truc de la jeunesse. Parce que quand on est petit, on n'a pas d'argent et on veut en avoir. Alors, on attend d'avoir de l'argent de poche.
C'est vrai.
Chaque petit centime, on le met dans un bas de laine, une tirelire, un truc comme ça. On a tous vécu ça, en fait. On est tous Picsou, radin et tout, étant enfant.
Ça dépend. Il y a des enfants qui sont Picsou de façon incontestable. Et il y en a d'autres, pas du tout.
Un peu moins, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on trouve plus. Et quand on est adulte, on le cache un peu. Parce que c'est un peu honteux d'être radin.
Vous êtes un peu Picsou ou pas?
Pas tellement. Les psychanalystes ont vachement...
C'est pas facile à avouer en même temps.
Non, mais les psychanalystes ont vachement lié l'argent au caca.
Oui.
Je sais pas si vous avez vu. Il y a un truc un moment de construction de la personnalité dans des très jeunes années, vers 2-3 ans. Et en fait, il y a des pages entières de Freud là-dessus, sur, en gros, c'est cette espèce de paradigme, argent, déjection. Et donc, c'est à la fois sale, désirable. Il y a un côté comme ça très profond, métabolique, qui est bizarre et que Picsou a pas complètement dépassé.
Et pourquoi vous me parlez du caca tout d'un coup? Alors, comment on parlait de ce que vous avez appelé Picsou?
Et moi j'ai été félicité par mes parents quand j'allais sur le pot, et donc j'ai tendance plutôt à jeter l'argent par les fenêtres.
Voilà, vous êtes généreux.
C'est pour venir là.
Voilà. On a fait un petit.
De ces moments sur le pot.
On a fait un
qui reviendront un jour.
Absolument, absolument. Bah tiens, Tanguy, tant que t'es là, c'est à toi.
On parle de ça.
En fait, je crois qu'on vit dans une nostalgie permanente, tout cela. Par exemple, le fait que notre invité Jules vienne pour parler de Picsou, ça me ramène à mon enfance, mais aussi à l'époque où j'avais plein d'argent, mes fameuses années RTL. Et on entend souvent la phrase « c'était mieux avant ». Ce matin, Daniel m'a dit « avant, on pouvait pincer les faces des femmes et se moquer des Noirs ». Et il a vu que ses propos me gênaient, parce que j'ai fui. Il m'a poursuivi en criant « où pincer les fesses des Noirs ?». Et dans toutes les interviews que je fais, parce que je suis extrêmement demandé, revient toujours la question de savoir si avant, on pouvait pas plus qu'aujourd'hui rire de tout. Je réponds même plus. Hein, donc les trois quarts des interviews de moi, c'est une page blanche, ce qui rapproche mes interviews au niveau intérêt de celle de Laetitia Hallyday. Quoi. Et hier, j'ai mis les chaînes infos parce que j'avais envie d'entendre des spécialistes de rien discuter de tout. J'ai une passion pour les escrocs. Sur les chaînes infos, depuis lundi, on parle du casse du musée du Louvre. Collier, boucles d'oreilles, broches, diadèmes ayant appartenu à des impératrices. Ces dames-là faisaient 90 kilos, dont 72 de bijoux. Les cambrioleurs ont agi en 7 minutes seulement, alors qu'on était lundi matin. Je veux dire, les mecs commencent la semaine à fond. Moi, il me faut 3 cafés pour pouvoir dire un premier mot. Eux, à 9h30, ils avaient dévalisé le Louvre. C'est ce qu'on appelle la France qui se lève tôt. Il reste des gens courageux dans ce pays. Puis, ils sont partis en scooter. Il y a 10 ans, François Hollande, vous vous souvenez, sortait en scooter, le bassin en fusion, rejoindre Julie. Maintenant, avec, on se fait voler le patrimoine national. Adultère, cambriolage. Il faut interdire les scooters. Et les voleurs sont entrés par le musée, dans le musée, par le biais d'une nacelle. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont resquillé. Et en fait, ils ont donné rendez-vous à un type qui vendait une nacelle sur le Bon Coin. Je sais pas, c'est énorme une nacelle quand même. Le même, j'imagine, vendait aussi plusieurs camions, 2 squelettes de beluga et une ville, hein, sous le pseudo Gros Bazar 94, ce qui fait qu'il avait aussi des demandes de date. Mais lui aussi s'est fait avoir. Les voleurs sont partis avec le camion élévateur sans payer. Il y a des gens qui, dans leur domaine d'activité, se constituent un CV complet en 3h10 de temps, en fait. Ouais. Bref, il y a eu ce braquage qui nous fait passer pour des clampins aux yeux du monde entier, parce que le Louvre, c'est connu internationalement. C'est la différence entre ce musée et Nicolas Dupont-Aignan. Et certains ont demandé la démission de Rachida Dati, mais vu la tête qu'elle a faite, on changeait d'avis. Yann Brossa, sénateur communiste, a parlé de honte nationale. Il n'a pas tort, parce qu'en pleine journée, on colle une nacelle contre le musée, des types pètent la fenêtre et braquent les bijoux au milieu des visiteurs. C'est quand même le Ocean's Eleven du pauvre. Quoi. Un diadème d'impératrice, c'est plus facile à voler que du chocolat de Dubaï à Carrefour City. Donc ça pose question. Dans le Parisien, le spécialiste police-justice explique qu'un vol doit durer moins de 9 minutes. C'est le temps moyen d'arriver de la police. Hein, c'est aussi la durée de mes chroniques. Voilà. Ce qui fait que si les vitres avaient été solides, parce que là, niveau résistance, on était sur l'aquarium de Bubule, le poisson clown de ta nièce. Bon, les malfrats prenaient du retard et on les attrapait. Bref, on peut le dire, on a foiré. Moi je vais souvent au musée, je le dis pas parce que je vise la même carrière qu'Inès Reg, alors faut pas avoir l'air trop au-dessus du lot. Et souvent, les gardiens, ils sont assis sur leur chaise, en train de regarder TikTok. Pas tous, hein. Il y en a qui sont sur Insta. Mais globalement, le niveau de vigilance a baissé. Mais voyez les propos d'Yann Brossa, honte nationale, ça revient beaucoup. On parle d'humiliation. Jordan Bardella a même dit jusqu'où ira le délitement de l'État. Ensuite, il s'est roulé par terre en pleurant comme tous les enfants. Et Marine lui a acheté des bonbons Pèze. Laurent Wauquiez a déclaré la France a été volée. Seul François Hollande, justement, a dit ne déclenchons pas de polémique. Lui, il est toujours très calme. Hein. Vous le mettez en arbitre dans un combat de MMA, je pense qu'il fait messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait pas en fait juste discuter, hein. Mais à part lui, les discours vont tous vers le même narratif, celui d'une France qui coule. C'est dans l'air, l'émission de France, on sait plus quoi, parce que Delphine Arnault a viré tous les logos. Là. Titré avant-hier, Louvre, braquage d'une France désargentée. On serait déclassé. La risée de la planète entière. J'ai presque honte d'être français. Hier, à la boulangerie, j'ai hué des baguettes. On se dit, avant, la France, elle était forte. Mais de quoi ? En 1911, on a carrément volé la Joconde, le seul être à avoir le sourire à Paris. En 76, l'épée de Charles X a disparu au Louvre. Elle a jamais été retrouvée depuis. Si ça se trouve, c'est Philippe de Villiers qui fait des démos avec, hein, au Puy du Fou. 1990, on est d'accord que c'était l'avant, donc c'était mieux avant 1990. Bon, des voleurs ont découpé un Renoir dans son cadre en plein jour. Ouais. À chaque fois, ils montent via une nacelle ou des échafaudages. Alors, ok, depuis, on aurait dû en tirer les leçons et renforcer la sécurité, parce que là, c'est open bar. D'ailleurs, je le dis, je refais ma salle de bain, voilà, et pour que ce soit dans le thème, je verrais bien le radeau de la Méduse au-dessus du bac à douche. Hein, si jamais quelqu'un connaît quelqu'un qui a une nacelle et ou une cagoule, bon, je lance l'idée. Tout ça pour vous dire que derrière chaque discours décliniste, il y a une intention. Oui, on s'est fait braquer un trésor patrimonial, c'est affreux. Pourtant, je ne suis pas bijou. Cette soirée, les liaisons dangereuses non genrées, où je m'étais sapé en marquise de Merteuil, bon, j'ai vite réalisé que les colliers ne m'allaient pas quant au corset. Quel inconfort. Oui, ça vous fait des fesses, mais... Alors oui, il y a eu des vols spectaculaires, des braquages, bah, il y en a toujours eu. Je ne sais pas si en 1911, quand la Joconde a été volée, on a dit « Ah, bah, c'était mieux en 1890 !» Et ainsi de suite. J'imagine qu'un jour, quelqu'un, le regard embué par l'émotion, a dit « Ah, ça, sous Néandertal, ça serait passé autrement !» Parce qu'il n'y a pas de système infaillible, il n'y a pas de honte nationale, dit d'humiliation à ressentir. Et dites-vous bien que dans 30 ans, il y aura un autre vol spectaculaire et des gens qui auront oublié celui-là diront oh, « c'était mieux en 2025
wow, !»
Tanguy sur scène le 14 novembre à Carcassonne.
Jules, vous avez suivi, j'imagine, comme nous tous, ce vol au musée du Louvre.
Siècle. Pure bande dessinée.
C'est ce que j'allais dire.
Il y a des albums qui racontent des trucs comme ça. Et les Raptou, à mon avis, c'est voilà, ils ont dû louer la Kiloutou pour aller découper la fenêtre. Je pense que si on les retrouvait, il faudrait quand même vérifier.
Ça fait une matière assez intéressante, ouais, pour un créateur. Là, pour Picsou et les Bits Coin-Coin, dans l'actualité, à part, donc, on a vu le Festival des Cannes, vous essayez de l'ancrer aussi dans une réalité pour faire sourire les lecteurs qui vont connaître. Et puis en plus, vous prenez en compte le lecteur à l'étranger, c'est-à-dire que le Festival des Cannes, il faut que ce soit une référence suffisamment connue pour que vous parlez du Maghreb, du Moyen-Orient, tout le monde.
Voilà, mais il y a un côté un peu toujours dans les bandes dessinées d'humour, Lost in Translation, on a toujours du mal à s'imaginer que des jeux de mots peuvent être transposés dans différentes langues et que ça marche. Vrai. Mais en fait, Picsou a vocation à être vraiment partout et on anticipe un petit peu ça. Encore une fois, comme c'est Disney, moi je communique en anglais avec eux et pour qu'ils comprennent un peu mes blagues, je donne des alternatives à mes astuces comme ça. Et les bits coin-coin, ça marche pas parce que coin-coin, ça leur dit rien en anglais, même s'il y a bitcoins. Et donc c'est de bit quacks parce que quack, c'est le quack, c'est le bruit des canards. Et le Festival des Cannes, en anglais, ça devient Sunduck Film Festival par rapport à Sundance. Voilà, on trouve des équivalents et c'est pareil dans toutes les langues. Et c'est ça le génie. Moi, je voudrais avoir un hommage à tous les traducteurs et les traductrices qui bossent avec moi. Je leur donne vraiment du fil à retordre parce que voilà, c'est un peu tordu. Cui-cui, bang-bang. Bon, voilà, il faut trouver le truc, quoi.
En tout cas, on s'amuse beaucoup à redécouvrir ces personnages. Donc, les Raptou, Géo trouve tout. Les enfants, les petits, quand même, qui ont eux aussi. En fait, chaque personnage a sa propre aventure au sein de l'album, ensemble également, avec ce Picsou, toujours aussi désagréable. Radin, ça on l'a vu. Pessimiste aussi.
Oui, voilà. De toute façon, c'est un personnage un peu déprimé et sombre de manière générale. Alors, ils lui font des tartes à la banane, ils essaient de lui remonter le moral un peu. Et puis, parmi les personnages que vous citiez, il y en a un peu moins connu, mais que j'adore. Et je pense que les fidèles de Picsou le connaissent très bien. C'est ce personnage qui a une tête d'ampoule. En fait,
le petit assistant
qui s'appelle Filament en français, Little Helper.
C'est l'assistant
de Géo trouve tout. Un peu, c'est son homme à tout faire. Il parle pas. Hein, c'est un rôle muet, mais il est vraiment marrant à mettre en scène. Vous rappelez moi on appelait ça le bonhomme au cédar des pubs.
Absolument.
Vous savez, c'est des petits personnages en bois qui permettent de faire des trucs d'anatomie, d'apprendre à dessiner les mouvements comme ça.
Il a un petit côté lampe de Pixar aussi.
Voilà, exactement. Et ben, ce Filament, je le trouve marrant. Et en fait, lui, il a une insécurité sociale, en fait. Une espèce de dumping social dans ce Picsou, puisque Géo trouve tout envisage de le remplacer par une LED. Oui. Et du coup, il fait du zèle pendant tout le. Parce qu'il consomme. Parce que les LED. Parce que.
Ça consomme moins.
Voilà, Filament consomme trop. Et donc, il fait du zèle pour essayer de se maintenir en poste. Il flippe un peu.
Vous l'avez compris, en creux, il y a aussi une critique du monde immatériel, du monde hyper connecté aussi à travers cet album. Et puis, alors, les journalistes en prennent aussi pour eux. Il y a le journaliste de Paris Mouche qui vient faire. L'interview de Carsten Duck, une sorte de crapaud un peu moche.
Alors c'est un personnage français justement. Ah. C'était un petit clin d'œil au fait qu'on soit français et qu'on prenne Picsou. Et c'est Paris Mouche, fameux journal français, et Pierre-Baptiste Landouin, qui est une grenouille évidemment à la française, qui vient interviewer Carsten Duck dans son île en forme. Il a une île en forme de Space Invader.
Oui, c'est ça.
Et ça, en fait, pour les fans de street art et de vous savez ce espèce de petit personnage très jeu vidéo. Fait en pixels comme ça, collé en mosaïque un peu partout à travers le monde. Keramidas, le dessinateur, a voulu vraiment que l'île ait cette forme parce que lui, c'est un chasseur d'invaders. Il y a une espèce de communauté comme ça. Ouais. C'est un peu lié aux gens avec les cryptos, les NFT, il y a tout ce monde comme ça. Et lui, en fait, il parcourt le monde pour photographier, pour stocker en fait des images de ces invaders qui ont été y compris envoyées dans l'espace. Donc il y a une espèce de culte pour ça. Ils ont Invader est parti dans une mission spatiale une fois. Donc le truc est vraiment très étonnant. Moi, c'est très loin de moi, mais j'apprends des choses.
C'est référencé avec un Picsou qui apprend donc non pas à s'écrouler, mais à scroller. Parce qu'il y a tout le vocabulaire aussi qui va permettre peut-être de réunir les grands-parents et les enfants sur un sujet commun, c'est-à-dire l'incompréhension mutuelle sur le matériel numérique contemporain, en fait.
Voilà, Picsou, ça permet de relier des lecteurs de 2, 3, 4 générations différentes avec quand même quelques références communes. Dans un monde où on dérive les uns les autres loin de chacun d'entre nous, dans une espèce de micro-île algorithmique où on a une culture faite sur mesure pour nous, mais qui qu'on peut pas vraiment partager, au moins il y a ça. Et donc ça met en scène un peu une mise en abîme de ce voilà, de cette diffraction, dissociation d'entre nous tous.
Picsou et les bits coin-coin, Jules Keramidas avec l'aval de Disney, la validation de Disney aux éditions Glénat. Et bien c'est depuis le début du mois d'octobre. D'ailleurs c'est un mois assez fructueux en bande dessinée, absolument. Demain sortira le nouvel épisode des aventures d'Astérix et Obélix en Lusitanie, signé Fab Caro. C'est un mois riche en BD, le mois d'octobre, c'est normal. Il y a une stratégie de libraire
derrière
ça.
La plupart des grosses séries sortent à l'automne, parce que tout le monde pense à Noël, et ça va être les bandes dessinées en fait qu'on peut offrir à tout le monde. Voilà, exactement. Et que ce soit Astérix, que ce soit Picsou, c'est des bandes dessinées qu'on trouve dans les libraires spécialisés, qu'on trouve dans les libraires de littérature généraliste et dans les hypermarchés aussi bien. Oui. C'est-à-dire que ces bandes dessinées qui coûtent pas très cher, qui sont vraiment accessibles à tous, dans un monde où parfois, en fait, maintenant, les graphic novels sont des trucs qui font 500 pages, qui sont très, très dispendieux, et donc ça permet, je dirais, il y a toute une économie de la BD comme ça, parce qu'il y a Astérix, parce qu'il y a Picsou, ou Lucky Luke, ça finance aussi une création extraordinaire en France. Il y a toujours un mouvement social sous-jacent des dessinatrices, dessinateurs de BD qui en fait, sont assez paupérisés, finalement.
Oui, oui.
Il y a des milliers de titres qui sortent chaque année, et à chaque fois, il faut défendre le droit d'auteur, le statut des auteurs qui est toujours un petit peu fragile, et en dehors des politiques publiques qu'on sollicite en permanence, il y a cette idée que des grosses licences ne doivent pas non plus éclipser tous les petits des albums qui seront vendus à quelques milliers d'exemplaires seulement et où se trouve toute la créativité. Donc moi j'aime bien qu'il y ait les deux côtés en fait en bande dessinée.
Et bien on retrouve Picsou en librairie et on retrouve tout de suite Emma Beaujean. C'est l'heure de l'hommage.
Ben oui, évidemment, parce que tous les jours dans cette émission, je rends un hommage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à mon appartement. Parce que ça y est, pour la première fois de ma vie, je vis enfin seule dans un appart. J'ai enfin les talles pour payer toute seule un appart. Ça me régale. Faut savoir que moi, je reviens de loin, vraiment. Il y a deux ans, j'avais pas du tout de lieu où dormir. Voilà, pour de vrai. En fait, moi, j'enchaînais les dates. Et j'espérais juste que le gars soit assez chaud pour me garder chez lui quelques jours. Si, ça se fait. Faut juste pas qu'il se demande pourquoi t'as pris des pantoufles et ta peluche avec toi à la terrasse du café. J'appelais ça dormir chez l'habitant. À ne pas confondre avec dormir chez Harry Habitant. Ça, c'est quand, après son non-lieu, un acteur accusé de viol reprend sa carrière normalement et qui commence ses spectacles par la musique I Will Survive. Après cette période, j'ai été en coloc. C'était une coloc de trois meufs. Alors, toutes les trois en plein pic d'hormones, il y avait du passage. Non, franchement, il y avait du passage. La dernière année, on avait une meilleure influence que le musée du Quai Branly. Et non, je ne ferai pas la blague à laquelle vous venez de penser, bande de gros dégueulasses.
Non.
Mais voilà, moi, j'ai un chez moi maintenant et qui dit nouveauté, dit nouvelle angoisse. J'ai peur de me faire cambrioler. Bon, en même temps, si je me fais cambrioler, ils vont cambrioler quoi? La boîte de couscous Garbi qui me sert de standard? Le panneau de chantier qui sert de table basse? Ou le panier dans lequel Old Olaf vient faire dodo quand il vient à la maison? Je dis ça, mais non, j'ai fait un effort en vrai. Moi, j'ai décoré mon appart. Et au début, je savais pas, j'étais un peu paumée. Du coup, bon, je peux le dire à nos auditeurs, j'avais pas d'idée, alors je me suis renseignée auprès de tout mon entourage. Et comme je travaille comme un yinche, tout mon entourage, c'est les gens autour de cette table.
Voilà.
Alors, je suis allée chez Tanguy. C'est assez minimaliste, puisque dans la chambre, il n'y a rien. À part son lit. Enfin, quand je dis la chambre, je parle de son donjon. Et quand je dis lit, je parle évidemment du cercueil dans lequel il dort. Chez Leïla, je m'attendais pas... Enfin, pardon, je m'attendais au contraire à ce que ça ressemble à une bibliothèque.
Ouais.
En fait, non. Pas du tout, ça ressemble à une distillerie. Je savais pas qu'est-ce qu'elle aimait le plus dans Baudelaire, c'était l'absinthe. Nagui, bon, alors, sachez que même s'il est pas là, je vous le dis, je vous le donne cash, il a un très bel appart, vraiment incroyable. Il se situe aux Tuileries et à Concorde. Alors, c'est peut-être pas clair, il a pas deux apparts, il est tellement grand qui s'étale sur deux stations de métro. Old Olaf, je vais pas donner l'adresse, même si on peut dire que toi, t'as une très belle vue sur les quais, puisque t'habites à Pont de l'Alma. Enfin, techniquement, sous le Pont de l'Alma. Vraiment, je suis très contente d'avoir cet appart. C'était pas gagné, parce qu'en plus, moi, j'ai un dossier nul de chez nul avec mon ancien proprio. C'était la merde. Il m'avait fait passer un entretien d'embauche, le bâtard. Je vous refais comment ça s'est passé. Il m'a dit... Alors dites-moi, selon vous, quelles sont vos principales compétences en tant que locataire? Je dirais la ponctualité, par exemple dans le paiement du loyer, le respect du voisinage, une vraie passion pour la propreté. Moi, je suis quelqu'un de très stable. Parfait, la stabilité, ça c'est un atout. Mmh. Ah, et je vois que sur votre dossier, vous avez mis 3 étoiles sur 5 en espagnol. Je vous propose de continuer cet entretien en espagnol. No problemo. excelente reflejo. Passemos a una pequeña situación hipotética. Imagine que su vecino de Ajibica organiza fiestas de karaoke todos los viernes. ¿Cuál sería su reacción? Comenzaría con un diálogo constructivo. Bon, c'est un petit peu long comme blague. J'en ai bien conscience. Mais en gros, j'ai mangé son churros et j'ai eu l'appart.
Oh non.
En réalité, c'est une chance inouïe de manger les churros. En réalité, c'est une chance inouïe. J'adore le sucre. C'est une chance inouïe à 24 ans d'être indépendante financièrement et en vrai d'avoir le luxe de vivre seule. Je vous jure que si j'avais dit ça à la Emma d'il y a 2 ans, elle n'y aurait pas cru. Et alors, je suis trop fière. C'est donc vraiment à elle que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écoutée.
Bravo Emma.
Emma Bourgeon sur scène, ah oui, au Mathurin, c'est tous les vendredis et c'est à 21h.
Et avec modération, toute l'alimentation, bien entendu. Voilà.
Plus moins les choses.
Oui, c'est ça, c'est ça. Vous nous avez confié donc, Jules, que vous étiez déjà en train d'écrire le tome 2. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'univers, sur la thématique peut-être des futures aventures de Picsou?
On va utiliser, on va voir arriver sur scène d'autres personnages secondaires bien connus. Daniel Morin nous confiait qu'il adorait Gontran Bonheur, le cousin womanizer de Picsou,
qui
a à la fois de la chance et du succès auprès des dames. Ah, en fait, d'accord, il accumule les conquêtes. Non, c'est pas le... avant d'être un sextoy, c'est un mot anglais.
Bien sûr, mais moi je suis pas bilingue.
Ah oui.
Par contre,
il y a le cadeau avec la BD.
Comme la ref, hein.
Voilà, les refs.
Et voilà, ça va être encore une nouvelle découverte de Picsou qui va être une nouvelle fois un peu désemparée et perdue. Et heureusement qu'il y a tous les autres pour l'aider.
Donc ça, c'est en 2027.
Exactement. Et là, le prochain Lucky Luke qui est voilà, en fait, en garde alternée avec Picsou, lui est en cours de dessin par HD et j'ai hâte de voir ses premières planches. Encore une fois, on peut pas le savoir, on a toujours une espèce de sixième sens souvent dans l'humour. Ça résonne avec une actualité, même si on commence à dessiner un album.
Et on sait quoi,
et là, moi j'ai commencé à écrire cette histoire avant que Trump soit élu. Et donc ça sonne énormément familier avec l'Amérique d'aujourd'hui.
Ah, très bien, vous pouvez pas nous en dire plus, j'imagine.
Ça se passe dans le Kansas, j'ai beaucoup fait voyager Lucky Luke, il est même allé en Europe, dans un cow-boy à Paris. Et là, en fait, on reste vraiment dans un paysage western, avec des personnages western, on est vraiment dans un Lucky Luke classique.
Donc ça, c'est 2026.
Voilà,
absolument,
l'an prochain.
Absolument. Il est temps de présenter des excuses, Daniel.
Absolument, désolé pour tous ceux qui, sur les conseils de notre spécialiste, ont cherché à acheter du Danik.
Oui.
Le Danik, monnaie subtilement cryptée, mais qui malheureusement n'existe pas. En revanche, vous pouvez toujours investir en envoyant vos dons sur dannymorin.fr. Merveilleux site, hein, dannymorin.fr. J'en prendrai soin. Bien évidemment, désolé pour Tom, Lisa, Emma, nos enfants un petit peu couillons de la génération Titeuf, qui ce matin ont découvert en vrai avec Picsou, les Beatles, l'argent liquide. Eh ouais, c'était l'époque de Sardou. On fumait dans les restos, on pouvait conduire sans ceinture. L'espérance de vie était pas dingue, mais bon, voilà, c'est une autre époque. Désolé pour tous nos auditeurs qui attendent fébrilement, en slip, avec une serviette sous le bras, de savoir qu'est-ce que c'est une golden shower.
Non.
Golden doré, shower douche, et le regard de cet enfant de 11 ans présent dans le studio. Golden shower, voilà, c'est une douche avec des pommes. Ouf, voilà, terminé.
Bien joué, Daniel.
Merci d'avoir préservé ma famille.
Bien joué, Daniel. C'est vrai qu'on a un spectateur jeune aujourd'hui.
On
n'a
pas
sur notre
junior.
Studio. Ouais, on a de la chance, on a de la chance, c'est les vacances. Merci beaucoup, Jules.
Merci
d'avoir
beaucoup
été avec nous. Merci à toute l'équipe autour de la table. Je rappelle, donc, Picsou et les Beats Coin-Coin. On vous retrouve bientôt dans un salon pour dédicacer.
Très bientôt, puisque à Saint-Malo, qui est le deuxième grand festival de bande dessinée, s'appelle Quai des Bulles, on sera avec Keramidas dès le week-end prochain pour dédicacer les 3 jours. Donc voilà, si tout n'a pas été dévasté par la grande tempête qu'ils annoncent en Bretagne, on sera là.
Benjamin, non, la tempête là-bas, il n'y a pas de souci.
Non, il n'y aura pas de tempête, il y aura plein de monde au rendez-vous.
Et bravo pour le Duck Me I'm Famous.
Voilà, c'est la référence de Daniel. On en a chacun une dans cet album. Merci, Jules, d'avoir été avec nous.
Merci.
Demain, on parle de cinéma avec François Ozon et Rebecca Marder pour le film L'étranger, adapté du roman culte d'Albert Camus. Et merci d'avoir été avec nous sur Inter.